Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Le système européen d'accueil des migrants et de gestion des demandes d'asile est en crise et ce sont des élus municipaux directement confrontés au manque de places d'hébergement qui le disent. Même en dehors de l'UE, en Suisse, la ville de Lausanne s'est ainsi déclarée ville refuge, tout comme Barcelone ou Madrid. Un engagement politique pour demander un assouplissement du règlement de Dublin qui veut que la demande d'asile se gère dans le premier pays d'arrivée des migrants avec toutes les reconduites à la frontière qui s'en suivent. Concrètement, Lausanne et l'établissement vaudois d'accueil des migrants encouragent les familles à accueillir chez elles des demandeurs d'asile. C'est le cas de ce couple chez qui s'est rendue Katia Michel.
Chez Carole et Paul, à l'heure du repas, il y a désormais trois couverts sur la table. Depuis un an, ce couple de Lausannois vit avec Fikré, un jeune érythréen de 19 ans.
Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est mon bureau. Quand je travaille, ici. Ça, la cuisine, c'est ici, en cuisine.
Avant de s'installer confortablement chez Carole et Paul, Fikré était logé avec 16 autres migrants dans un abri souterrain de la protection civile.
C'était très difficile pour moi d'étudier. Je savais presque pas les gens, comment ils vivent ici. J'avais pas confiance. Je pouvais pas parler aux gens parce que je parlais pas français. C'était difficile pour moi. Ici, c'est le paradis par rapport à l'abri. C'est ma maison, je dirais.
Un jour, par hasard, Carole, professeure de français, rencontre Fikré. Lui offrir un toit et un peu de chaleur humaine, c'était pour elle une évidence.
Tu m'as dit, en fait, je vais aller frapper à la porte de tout le monde, voir s'il n'y a pas une petite place pour moi. Et ça m'a touchée au plus profond. Je me suis dit, on ne peut pas laisser ce petit jeune comme ça à l'autre bout du monde. Si c'était mon fils, je voudrais que quelqu'un à l'autre bout du monde l'accueille. Je voudrais ça pour mon enfant. Je me suis mise à la place une seconde de ses parents aussi, en me disant, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il ne connaît personne. Nous, on a de la place. C'est de l'égoïsme pur que de ne pas ouvrir notre porte.
Carole et Paul ont donc répondu à l'appel de l'institution cantonale chargée des migrants qui recrute à des familles d'accueil. Pour Jessica Franière, l'une des responsables du projet, cette immersion en famille d'accueil permet surtout et avant tout une meilleure intégration des jeunes migrants.
Je crois que ça leur apporte en premier lieu une espèce de confiance en eux pour le futur. Disons que ça leur apporte les clés de comment est-ce qu'ils vont pouvoir avancer en Suisse. Ce qui va changer, c'est comprendre les codes culturels, c'est avoir un accès à l'emploi à travers des stages, par exemple, à travers le réseau de la famille, avoir un appui de la famille par rapport à la langue, bien entendu, ça c'est un des principaux facteurs. Et c'est vrai qu'on remarque qu'ils se sentent très à l'aise. Et quand ils demandent tout d'un coup un autre logement ou d'être autonomes de la famille, c'est parce qu'ils ont fait un petit chemin et que maintenant ils se sentent bien pour voler leurs propres ailes.
Près de 200 migrants ont déjà été accueillis dans des familles suisses. Le projet est soutenu par la ville de Lausanne qui, tout comme Barcelone ou Madrid, a rejoint récemment le réseau européen des villes refuges. Oscar Tosato est conseiller municipal en charge de la cohésion sociale.
Se déclarer ville refuge, c'est de dire à notre État fédéral, écoutez, les accords de Dublin, aujourd'hui, ils font peser toutes les arrivées de migration sur quelques pays, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Appliquons plus rapidement la répartition de ces migrants dans nos pays. On a vu qu'il y a des volontés de le faire au niveau européen, mais on ne voit rien concrètement. En Suisse, il y a une diminution du nombre de requérants d'asile. Ça paraît quand même assez étrange lorsqu'on connaît les phénomènes migratoires, voire d'appliquer les accords de Dublin de manière plus souple. Il est possible, notamment pour pouvoir réunir des familles qui auraient été réparties dans des pays différents. Voilà, ce sont là quelques éléments d'une ville-refuge.
Voilà, on prépare un petit lancer de poulet avec des...
De retour chez Carole et Paul, c'est l'heure de passer à table. Au menu, un émincé de poulet aux champignons.
Au début, je n'avais pas du tout des champignons. Je voyais ça dans le forêt en Érythrée, je disais, mais ça change pas.
En habitant ensemble, on se découvre, mais on découvre son pays et lui découvre le nôtre et il découvre les habitudes, comme on vit ici, tout simplement, et c'est un atout pour tout le monde, en fait.
Et puis, c'est aussi grâce à Fikré que je me suis mis à la course à pied, donc il me fait faire du sport, c'est bien. Ouais, ça nous a beaucoup. Enfin moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir et puis aussi permis de relativiser par rapport aux problèmes qu'on peut avoir nous chez nous, de voir que Fikré a risqué sa vie en traversant le désert jusqu'à 30 personnes dans une jeep entassées sans presque pouvoir respirer.
Oui, on est très. Ils partagent beaucoup. Et c'est que du bonheur en fait. On passe des grands moments ensemble à regarder sur Internet comment c'était chez lui. Nous, ça nous aide aussi à voir d'où il vient et quel effort il doit faire ici maintenant avec nous.
C'est quasi notre fils adoptif, hein, si on veut bien. Hein, ouais.
C'est grâce à Paul et Carole que je parle aussi bien que maintenant. Mais ouais, c'est ma deuxième famille ici. J'ai que eux, hein, en fait.
J'aime bien ça.
Aujourd'hui, Paul et Carole partagent avec Fikré bien plus qu'un appartement. Épaulés par sa nouvelle famille de cœur, Fikré se sent armé pour poursuivre ses études, avec pour projet de devenir plus tard biochimiste.
Après la justice et les médias, c'est désormais le monde du cinéma qui est dans le collimateur du gouvernement populiste ultra-conservateur polonais. Pour remettre au pas les artistes trublions, le pouvoir a limogé la directrice de l'Institut polonais du film, l'organisme public qui vient financer et coproduire les œuvres qu'il a sélectionnées. Une manière claire de peser sur les choix artistiques et politiques de l'institution. À Varsovie, Maja Szymanowska a rencontré des cinéaste très inquiet.
Aux portes de la vieille ville sur l'allée élégante de Krakowskie Przedmieście, ce jour-là, à côté des touristes, des personnalités du monde du cinéma battaient le pavé, des réalisateurs, des acteurs et des producteurs venus protester contre la nouvelle tentative du pouvoir de mettre au pas l'Institut polonais du film, le PISF, l'équivalent du CNC en France, l'organe public de financement du cinéma. L'acteur Victor Zborowski était de la partie.
C'est une tentative pour s'approprier l'Institut du film et c'est une épreuve douloureuse et compliquée pour notre milieu de cinéastes.
Le ministre de la Culture vient en effet de révoquer pour faute grave la directrice de l'Institut Magdalena Sroka aux manettes de cette institution depuis 2 ans. L'Institut du film polonais, le PISF, créé par les cinéastes eux-mêmes en 2005 sur le modèle du CNC français, dispose d'un budget d'État de 42,5 millions d'euros. Sa fonction principale est d'épauler le financement des films, d'aider à leur distribution et à leur promotion à l'étranger. Pour le réalisateur Janusz Zahorski, cet institut doit rester indépendant.
On veut, et je n'ai pas peur de le dire, faire pression sur le gouvernement. On demande la transparence. Le directeur dispose d'un mandat de 5 ans. Madame Magdalena Sroka a été élue à l'unanimité. Seules 2 années se sont écoulées. Que s'est-il passé pour qu'elle doive en plein mandat quitter son poste?
Aucune explication claire n'a été donnée pour motiver cette révocation. On évoque une lettre signée par la directrice mais écrite en son nom par une employée de l'Institut, très critique vis-à-vis de la politique audiovisuelle des conservateurs. Il y a aussi le refus de l'Institut de financer l'année dernière le film phare du nouveau pouvoir, Smolensk, sur la catastrophe de l'avion dans laquelle a péri l'ancien président et frère du leader des conservateurs, Lech Kaczyński. Une chose est sûre, Magdalena Sroka n'est pas une personnalité assez politique. Et c'est un collectif de femmes cinéastes, Kobiety Filmowce, qui a le premier tiré la sonnette d'alarme. Cette jeune productrice a été de tous les combats, mais vu le climat actuel de peur, elle préfère ne pas donner son nom. Appelons-la Eva.
Nous, les cinéastes, nous avons peur que le ministre, en choisissant un directeur et un conseil de l'Institut proche de ses opinions politiques, impose désormais des critères de financement autres qu'artistiques. Nous sommes vraiment inquiets. C'est pour cela qu'on se mobilise. Le cinéma doit garder son indépendance. Nous ne pouvons pas créer sur commande.
Le bras de fer entre le cinéma d'auteur polonais et le gouvernement conservateur ne date pas d'hier. Il a pris parfois des allures d'une guerre ouverte, comme par exemple avec le film Ida de Paweł Pawlikowski. Ida qui a remporté en 2015 l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Son scénario tissait une quête d'identité avec en arrière-plan les non-dits sur l'antisémitisme polonais et son histoire.
Je suis votre nièce, je sais qui tu es. Tu es née à Piaski. Ton vrai nom, c'est Ida Liebenstein. Les sœurs ne t'ont rien dit durant toutes ces années? Tu es donc une nonne juive.
Malgré son succès à l'international, aux États-Unis et en France, Ida n'a pas plu aux conservateurs qui ont vivement critiqué cette méditation sur l'identité polonaise.
Vous connaissiez la famille Liebenstein? Ils vivaient ici avant la guerre.
C'était des juifs?
Non, des Esquimaux. Nous savons tous les deux à qui appartenait cette maison.
Aucun juif n'habitait ici.
Je sens quand quelqu'un me ment.
Ida a bien été diffusée en Pologne, mais la personne en charge de la programmation sur la chaîne publique, désormais dirigée par une équipe proche du pouvoir, a été licenciée. Commentaire d'Eva.
Les réalisateurs comme Pavel Pavlikovski ou Agnieszka Holland sont aujourd'hui censurés. La télévision publique ne veut plus diffuser Ida et quand elle l'a fait une fois, elle l'a précédée d'un carton indiquant que durant la guerre, les Polonais étaient bons pour les Juifs et que ce n'était pas eux qui les tuaient. Cette censure est palpable. Quand le dernier film d'Agnieszka Holland a obtenu l'Ours d'argent au Festival de Berlin, la télévision publique n'a pas cru bon de signaler cela dans les journaux. Car dans ce film, l'Église catholique n'est pas montrée sous son meilleur jour.
Eva ne veut pas donner son nom car elle vient de se voir refuser un financement par le PISF. Elle craint de manifester ouvertement ses opinions car la plupart de ses productions dépendent des financements publics. Un nouveau directeur devrait être nommé avant la fin du mois. Jusque-là, le collectif des femmes cinéastes compte continuer la mobilisation. Elles ont réussi à obtenir beaucoup de soutien, même à l'étranger. Le réalisateur allemand Wim Wenders vient d'adresser une lettre au ministre de la Culture pour défendre l'indépendance des cinéastes.
Et pour contrer la censure ou la platitude des médias traditionnels, un jeune journaliste russe a trouvé la parade. En quelques mois, Yuri Doud est devenu la coqueluche de l'internet russe. Sa chaîne YouTube, qui propose des interviews de personnalités publiques aussi malicieuses que pertinentes, attire des millions de personnes. Son portrait est signé depuis Moscou, Étienne Bouche.
Yuri Doud cuisine ses invités en t-shirt et jeans délavés. Il surjoue le rôle du jeune insolent en s'autorisant avec eux une certaine familiarité. Ses questions, il les lit depuis son téléphone. Yuri Doud a 31 ans. Il a commencé sa carrière par le journalisme sportif. Il est aujourd'hui d'ailleurs rédacteur en chef d'un média en ligne consacré au sport. Au début de l'année, il a lancé sa propre chaîne YouTube. L'émission qu'il diffuse porte son nom et s'adresse à une jeunesse connectée et curieuse. Il reçoit une personnalité publique pour un long entretien en tête-à-tête. Au départ, Yuri Doud invite surtout des rappeurs et des petites vedettes issues d'Internet. On y parle de tout sur un ton parfois désopilant. Certains épisodes dépassent les 5 millions de vues. Le programme gagne en notoriété et depuis quelques mois, Yuri Doud reçoit davantage de personnalités connues du grand public. Des invités issus des milieux culturels, politiques, du journalisme. La forme fait toujours mouche, les questions toujours culottées, mais l'essentiel est ailleurs. L'intérêt de l'émission, c'est qu'elle offre un espace de débat sur la société russe actuelle. On discute de la censure dans les médias, d'argent, de politique, du cinéma contemporain. Yuri Doud donne aussi la parole à des personnes qui en sont habituellement privées. Jusqu'à présent, c'est l'opposant Alexei Navalny qui détient le record d'audience. Pour autant, il ne s'agit pas d'un programme d'opposition. Les échanges incitent d'abord à la réflexion. Et c'est ce qui explique sans doute le succès de Yuri Doud. À la télévision, la confrontation d'idées se limite à des formats caricaturaux. Les émissions de vrais débats ont quasiment toutes disparu.
We'll be proud to say, I am an European.
Il y aurait bien des raisons de désespérer de l'avenir de l'Europe, le Brexit, la montée du populisme eurosceptique et l'incapacité à gérer la crise migratoire, autant de défis qui n'effraient pas Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, président de l'Institut Jacques Delors, signe aux éditions Fayard « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Et comme il l'a expliqué à Catherine Roland, l'UE a non seulement un avenir, mais aussi des valeurs à défendre.
L'Europe a été conçue et doit rester comme une union de minorités. C'est la seule construction étatique ou fédérale au niveau mondial qui n'est pas une majorité qui a décidé de conquérir d'autres. On part toujours mal de l'Europe. Bon, écoutez, je pense que quand on sort de l'Europe, on voit l'importance de l'Europe. Et quand on perd l'Europe, on commence à voir l'importance de l'Europe. Je le dis en citant la grande bêtise que les Britanniques ont faite de sortir. Je pense, ils sont en train de commencer à voir quelle est la la bêtise qu'ils ont faite.
Et c'est difficile, justement, de défendre des valeurs alors que cette Europe se détricote aujourd'hui.
C'est un détricotage qui a commencé depuis un peu de temps et qui est lié au fait que on pense que on puisse trouver des solutions nationales aux grands problèmes qu'on a devant nous. En vérité, c'est une illusion. Quand on a 1 million de réfugiés qui frappent à la porte, est-ce qu'on pense qu'il y a une solution nationale à tout ça? Je ne pense pas. Ou quand il y a le terrorisme qui arrive en Europe, ou quand il y a la grande instabilité dans la Méditerranée, où je pourrais continuer, on comprend que ou bien on est unis et on a une solution ensemble. Et là, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait aujourd'hui, hein. Mais la seule réponse efficace est si on la donne tous ensemble.
Oui, mais alors comment faire revivre ce rêve européen qui a été en quelque sorte brisé et que ne comprennent plus finalement les perdants de la mondialisation? Ils ont l'impression que l'Europe ne s'adresse pas à eux.
Je pense qu'ils ont un peu raison. Il y a une partie de la société qui voit l'Europe comme faite pour les autres, les mondialisés, ceux qui parlent les langues, ceux qui sont capables de travailler d'un pays à l'autre. Et je pense qu'il faut changer la proposition de l'Europe, même en termes très concrets. Un exemple, il faudrait lancer cette idée de l'Erasmus pour les lycéens, parce que l'Erasmus, aujourd'hui, qui est un des grands succès de l'Europe, est seulement pour les étudiants universitaires, qui sont une petite partie de nos sociétés. Je dis que l'Erasmus, s'il est la chose la meilleure qu'on fait en Europe, il faut qu'il soit pour tous.
Dans les perdants de la mondialisation, il y a aussi certains pays qui se considèrent comme perdants, comme les pays de l'Est, par exemple, qu'on a laissé attendre avant de les intégrer, et qui ont l'impression finalement que l'Europe les a trompés.
L'erreur n'a pas été celle de les faire entrer, mais l'erreur a été celle de penser qu'une entrée politique, économique, pouvait rendre nos sociétés complètement homogénées. Alors, c'est pas la même chose. Ce sont des sociétés qui ont connu une histoire différente. Donc, il faut leur dire clairement que l'Europe est un lieu où on prend des engagements et on prend aussi des bénéfices. Quand il y a des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui disent « nous, on veut absolument pas partager le poids de la gestion de la crise des réfugiés », alors ce serait légitime de dire « bon, alors nous, on partage pas les fonds structurels avec vous ». Donc l'Europe, ce n'est pas un supermarché dans lequel vous entrez, vous prenez ce que vous voulez, et puis vous sortez sans payer.
Donc il faut remettre en avant certaines valeurs européennes. Bon, en même temps, pas question de reprendre le slogan de Donald Trump qui dit encore « America first », c'est pas « Europe first » quand même.
Non, je pense vraiment ce slogan est le pire des slogans possibles. Parce que de notre côté, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les Européens, d'être ensemble et d'être en condition d'être influents dans le monde de demain, un monde dans lequel les grands géants du monde, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, vont complètement bouleverser l'économie mondiale. Dans cette économie bouleversée, nous serons petits, parce que on était un sixième du monde en termes de population dans les années 60. On va être dans quelques années un vingtième du monde. Donc, dans ce monde qui change, ou bien on est ensemble, et donc on est influent, on est fort économiquement, et on est en condition de faire appliquer nos idées des valeurs. Je pense, par exemple, de l'environnement, du climat. Et c'est l'avenir de nos enfants qui est devant nous.
Finalement, est-ce que vous estimez que l'Europe est encore à faire, qu'elle n'est pas entièrement faite?
On a aujourd'hui une identité européenne, on a des institutions, on a une monnaie commune, on a un marché commun, mais je pense qu'à la fin, il faut la bataille politique, parce que seulement du point de vue politique, on peut faire ce pas en avant, en sachant que ce pas en avant ne veut pas dire effacer les États-nations. Moi, je suis contre l'idée que l'Europe soit la substitution de l'État-nation. L'Europe, comme Jacques Delors a toujours dit, est la fédération des États-nations. Parce que cette identité multiple est absolument en ligne avec le temps d'aujourd'hui. Et donc, je pense que là, il faut faire l'Europe, et il faut la faire du point de vue culturel, politique. Parlons d'école. Je pense que là, il y a l'autre sujet qui est devant nous.
Faire l'Europe dans un monde de brut est publié aux éditions Fayard. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux rubrique émissions et Accent d'Europe. Dans quelques instants sur RFI, un nouveau point sur l'actualité.